Eh bien, vous avez entendu le générique de l'émission Mosaïque. Alors, je dois vous dire à nos auditeurs que c'est la 40e émission Mosaïque. Donc, nous avons tenu bon et nous poursuivons ce dialogue, cette ouverture des uns vers les autres, en espérant que pour nos auditeurs, on y apprend quelques affaires concernant la religion de l'autre. On y apprend aussi que finalement, nous partageons beaucoup de valeurs et qu'il est peut-être important de nous entendre, et plus que de nous entendre, de nous écouter, non pas pour nous convertir, nous sommes chacun attachés à nos propres racines religieuses et à notre religion, mais pour repérer, reconnaître que l'autre a aussi, comme moi, son mot à dire, et que c'est ensemble, en reconnaissant chacun nos spécificités, que l'on peut avancer. On est unis pour construire la paix, dans la diversité de nos religions. Voilà. Alors, bravo pour cette 40e émission Mosaïque. Autour de moi, il y a les gens qui l'ont inaugurée, donc Jean Botvinnik pour les Juifs, Catherine Bianchi, c'était avec ton père que l'émission avait commencé, et toi-même, pour les protestants. Mimoun Enbati, je crois que vous faisiez partie du démarrage. Voilà, toujours là, avec Fatna Tahri, Chantal Matelet. Alors, peut-être pas au tout début, mais voilà, pour les chrétiens. Donc, merci d'être à Radio Grand Ciel pour cette 40e émission. Alors, vous vous rappelez que dans notre dernière émission, nous avions évoqué la question de l'argent. Donc, nous allons reprendre ce thème. Mais auparavant, l'actualité. Et l'actualité, c'est cette rencontre du pape et des responsables de la mosquée Al-Azhar à Abu Dhabi. Alors, Jean, vous vouliez en parler?
Oui, absolument, parce que c'est une rencontre assez extraordinaire par sa nouveauté, par son importance, au moins numérique. Donc, le 3 et 4 février 2019, a eu lieu pour la première fois une conférence interreligieuse aux Émirats Arabes Unis qui ont réuni 600 personnalités de différentes confessions sous le signe de la fraternité humaine. C'est le rabbin Moshe Seba qui a été le délégué du grand rabbin de France. À l'issue de la conférence, qui a réuni le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, le cheikh Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, qui est le premier ministre des Émirats et gouverneur de Dubaï, le pape François et le grand imam sunnite de l'Institut égyptien Al-Azhar, le cheikh Ahmed Al Tayeb, un document a été signé sur la fraternité humaine, appelant en particulier à la liberté des croyances.
Ça, c'est aussi la liberté religieuse. Il y a non seulement l'incitation à travailler ensemble, mais la liberté religieuse.
Et donc j'ai noté quelques phrases qui ont été rapportées. La foi amène le croyant à voir dans l'autre un frère à soutenir et à aimer. Notre richesse émane de notre diversité religieuse et culturelle. On doit être préoccupé par l'éducation de nos enfants en leur faisant comprendre qu'une religion ou une culture différente n'est pas une menace d'existence. Je conclus par une phrase d'Emmanuel Levinas qui a dit « Mais attention, la vérité religieuse la plus douce est déjà une croisade ».
En effet, parce que de toute façon, quand on s'enracine dans les religions, on s'enracine au plus profond. Et c'est vrai que l'utilisation du fait religieux dans la vie politique, on a vu dans l'histoire que ça a été assez catastrophique. Absolument. Et utilisé par tout le monde, à peu près à toutes les époques. Alors, ce qui m'est apparu intéressant dans ce texte, c'était sa longueur. Parce que dans le texte de Nostra Aetate, le texte conciliaire qui évoque la liberté religieuse et qui évoque les autres religions, alors la religion juive, on parle des aînés, les juifs, vis-à-vis desquels les catholiques ont beaucoup de torts, mais pour le texte Nostra Aetate, c'est-à-dire la liberté religieuse de toutes les religions, qui ont, dit le texte, une parcelle de vérité, c'est vrai qu'il fait 3 pages. Alors que là, je trouve qu'un document aussi long, ça veut dire quand même qu'il y a là des éléments de réflexion et surtout une invitation que les communautés religieuses des différentes religions s'en emparent, en discutent et s'interrogent.
Et qu'on enseigne à nos enfants.
À la fois ce que nous sommes, mais le respect de l'autre. Donc quelque chose effectivement de très important. Par contre, Mimoun, vous disiez, Abu Dhabi, c'est quand même pas le lieu le plus idéal. Et puis c'est vrai qu'il y a eu des visites de papes ailleurs.
Ailleurs, oui. On avait parlé de la béatification des martyrs en Algérie.
En Algérie.
Là, il y a le pape qui a été aux Émirats Arabes Unis. Au mois de mars, je crois qu'il va aller au Maroc. Mais j'aurais voulu, moi, ça aurait été beaucoup plus fort s'il aurait été directement en Arabie Saoudite, là où il y a les 2 lieux saints de l'islam.
Ça, ça paraît impossible, puisque la terre d'Arabie Saoudite est considérée comme une terre complètement en soi musulmane, donc.
Oui, mais nous, islamiquement, il n'y a pas de terre. Toutes les terres sont
sacrées.
Sont sacrées. Il n'y a pas un musulman peut prier où il veut, sur n'importe quelle terre.
Je me souviens aussi de la visite du pape Jean-Paul II à Casablanca.
Oui, effectivement.
Donc c'était déjà quand même le pape Jean-Paul II, ça fait déjà... puisque nous sommes pape François, il y a eu le pape Benoît XVI et Jean-Paul II, c'était avant. Donc finalement, cette ouverture, elle existe quand même. Et bon, alors ça ne veut pas dire que tout est facile dans les relations interreligieuses.
Tout n'est pas facile. Et effectivement, on parlait des Émirats Arabes Unis, c'est pas le pays qui représente le mieux les droits de l'homme et les droits de la femme, la tolérance. Ils font partie de la coalition avec les Saoudiens bombardent un malheureux petit pays qui s'appelle le Yémen, qui traverse une période très, très, très difficile. Mais bon, j'encourage, bien sûr, je soutiens, j'encourage cette ouverture, ces débats interreligieux,
ces rencontres. C'est là qu'on retrouve aussi des guerres qui ont un aspect de croisade. Et c'est là qu'on perçoit aussi la dimension qu'on peut regretter de nos religions instrumentalisées pour assassiner.
Le pape, il était aussi en Égypte.
Absolument. Bon, en tout cas, prenons du côté positif.
Absolument, on encourage, on soutient.
Cette ouverture, c'est l'esprit d'assise.
En sachant qu'en Émirats Arabes Unis, je crois qu'il y a une quarantaine d'églises catholiques qui existent. Bon, ce qui n'est pas le cas en Arabie Saoudite. Mais les Émirats, c'est quand même un pays qui est ouvert aux autres.
Un peu plus ouvert.
Ouais. J'ai lu qu'une synagogue dans un pavillon privé a été ouverte à Dubaï. Il y a beaucoup d'étrangers qui travaillent dans les Émirats et donc il y a beaucoup de juifs expatriés qui sont là, pas forcément en permanence, et donc qui ont loué ou acheté une maison. Et Dubaï est très content de montrer les photos.
Tout à fait.
Donc il y a une ouverture.
Une ouverture absolument qu'il faut.
Ouverture timide, prenons l'aspect positif. Et puis, nous allons retourner à ces questions d'argent que nous avions évoquées. Alors, c'est vrai que nous n'avions pas passé en revue ce qui se passait chez les catholiques en ce qui concerne l'argent. On est sous le même régime que les protestants et que tout le monde maintenant. La loi de séparation de l'Église et de l'État, la confiscation des biens des églises, mais qui sont affectés au culte. Et de fait, à l'époque, les musulmans n'étaient pas aussi nombreux. Dans l'action républicaine, après la Première Guerre mondiale, on évoque qu'il y a des employés qui viennent du monde musulman et que, vous savez, quand même, ils travaillent bien. La seule chose, c'est que dans la potée Bosron, là, il ne faut pas mettre de porc. Voilà. Pour respecter le régime. Mais c'est intéressant quand même de voir que dans l'action républicaine, aussitôt après la Première Guerre mondiale, on évoque ça. Et il y avait à Dreux 2 personnes qui étaient identifiées de culture musulmane.
Mais il ne faut pas dire qu'il n'y avait pas de musulmans en France au moment de la loi de 1905, parce que l'Algérie était française. Et il y avait des millions d'Algériens musulmans.
Mais qui avaient un statut secondaire.
Et qui étaient mal considérés, exactement comme les juifs. Les élites juives, les rabbins juifs algériens d'origine algérienne étaient mal considérés. Ce n'étaient vraiment pas des rabbins par rapport aux rabbins français consistoriaux instaurés par Napoléon.
D'accord. Voilà.
C'est la même pensée.
C'est vrai que penser la France de Dunkerque à Tamanrasset, c'est aussi un élément culturel. C'est vrai et c'est intéressant de voir que la grande mosquée de Paris a été construite
1921.
Par l'État français en reconnaissance justement
à la contribution des soldats musulmans
dans la guerre.
Et la loi de 1905 s'appliquait en France, mais pas sur les territoires français, tels que l'Algérie.
Ah oui.
Non, la séparation n'avait pas lieu en Algérie.
Tout à fait intéressant.
Oui.
Et n'avait pas lieu non plus dans les territoires d'Alsace-Lorraine, après, puisque...
Il était encore là,
c'est avant 1914, donc il faisait partie de l'Empire allemand.
Oui, c'est ça, c'était
Comme quoi l'histoire se...
Mais j'ai lu que, en fait, ce sont les églises protestantes qui sont les plus nombreuses constituées sous la loi 1905. Puisque chaque église protestante locale est une association cultuelle, loi 1905. Alors que chez les catholiques, c'est un diocèse qui regroupe un certain nombre de paroisses.
Voilà. Alors à l'époque, donc, effectivement, il y avait autant de paroisses que de communes. Donc 36 000 paroisses, 36 000 communes, vous voyez un peu le paquet.
Ouais.
Mais cette loi est discutée. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est qu'elle a permis d'instaurer la laïcité, c'est-à-dire un espace où chacun peut intervenir avec une grande liberté, quelle que soit sa religion. Et là, je me dis merci à la laïcité.
Alors, oui, justement, et il y a un débat de réaménager cette loi de 1905 qui fait un peu peur aux protestants.
Qui fait peur aussi aux musulmans.
Oui.
Ah bon, aussi,
oui, absolument.
Mais aux protestants, parce qu'ils appliquent déjà cette loi depuis le début, en s'étant constitués, en ayant une transparence financière, etc.
Le culte des musulmans n'en leur a rien demandé. C'est le ministre des Cultes de l'Intérieur qui veut réaménager, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je peux vous le dire que la grande majorité des responsables d'associations ou de fédérations musulmanes ne sont contre ces réaménagements. Ah oui,
mais est-ce que ça n'est pas, tout à l'heure vous évoquiez l'Arabie Saoudite, qui n'est pas quand même le lieu de la plus grande liberté religieuse, ni le lieu de la plus grande ouverture. Donc est-ce que justement ça n'empêcherait pas ces interventions de...
De là à réaménager la loi de 1905, non.
Ah oui.
À partir de là, à mettre des organismes pour voir que les musulmans s'organisent, s'autofinancent, oui, que l'État aide à l'organisation, oui, mais de là... à réaménager la loi de 1905, non, il n'y a pas lieu de...
Et toutes les communautés musulmanes sont loi de 1905 ou...
Non, certaines sont des associations culturelles.
Soit culturelles ou culturelles.
Et si elles sont culturelles, elles ne devraient pas exercer le culte.
Elles ne devraient pas, mais elles le font quand même.
Ah oui, d'accord.
Parce que ça, c'est une méconnaissance. Je pense que c'est une méconnaissance. Ça change actuellement. La grande majorité des lieux de culte musulmans qui sont construits maintenant sont construits...
Culturellement.
Sous, voilà.
1905.
Maintenant, revenir à la question de l'argent chez les catholiques.
L'argent tabou.
Ben oui, l'argent, il ne fallait pas en parler de l'argent, parce que l'argent est mauvais conseiller. Là. Mais on en parle maintenant, et le pape François nous incite à en parler très fortement. Il dit que l'économie doit intéresser tous les catholiques. Je trouve ça intéressant, parce que ça s'inclut aussi dans le cadre de comment vivre sur notre terre. Ce n'est pas seulement l'argent pour l'argent, c'est comment vivre sur notre terre. Qu'est-ce que c'est que le partage? Les biens qu'on a à partager, ils sont là. Dieu nous envoie des biens à partager.
Dans l'évangile, quand même, Jésus... paie l'impôt. Donc la vie quotidienne fait qu'on a besoin d'argent. Mais dans l'Église, on ne parle pas d'argent. Alors qu'il en faut bien pour construire ces églises, ces cathédrales. Quand on dit, ah ben oui, les masses chrétiens qui ont construit les cathédrales, oui, mais en fait, il y avait quand même un budget, il y avait...
Tout à fait.
Et ce qui m'a impressionné, en recherchant dans les archives, finalement, ce qu'on trouve concernant les cathédrales ou concernant les églises, souvent, ce sont justement les textes de rente, les textes de donation, les textes, parce que chaque chrétien, quand il était au moment de mourir, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faisait un testament, s'il pouvait, ou autrement, mais même les plus humbles, léguer des choses pour les pauvres, léguer des choses pour dire des messes. Je pense, par exemple, les donateurs des biens pour construire l'hôpital de Dreux avaient donné des biens et des sommes assez importantes, mais on devait réciter des prières pour eux, dire des messes pour eux, pour le bien de leur âme. Donc, il y avait quand même là la présence de l'argent.
Oui, mais alors, il y avait un rapport à l'argent qui était quand même surprenant. Hein. On achetait des indulgences, on achetait plein de choses comme ça.
On n'achetait pas des messes. Parfois, on faisait dire des messes, oui, donc on léguait de l'argent qui permettait ensuite de dire des messes.
Enfin, bon.
C'est une des révoltes des protestants.
Ah bah, oui, les indulgences, c'est la révolte de Luther.
Bien sûr, bien sûr.
Là, c'est la question des indulgences. C'était un peu c'était la question de l'argent poussée à l'extrême, aboutissait à n'importe quoi.
Les protestants, on est sauvés par la grâce. Pas par ses fêtes, par la grâce de Dieu. Bien sûr, alors, faut faire du bien, bien entendu, mais c'est pas en se rachetant, en faisant des choses que on s'est sauvé.
Ça a été maximalisé, je dirais, chez les catholiques à un moment donné. On est parce que la grâce n'exclut pas les dons, hein.
Oui, mais là c'était des indulgences. Oui. Donc c'était pour être sûr d'aller
au paradis.
Oui, c'est vrai que là, c'était largement excessif, mais ça correspondait très bien à l'époque où, de toute façon, on était tellement inquiets. D'abord, on mourait jeune, on n'avait pas toutes les... Hein, la médecine n'était pas si développée. Donc, la mort était omniprésente et c'était important de savoir que dans l'au-delà, on serait du bon côté, mais avec Dieu.
Est-ce qu'il y a une référence théologique pour... affirmer ça,
c'est-à-dire
donner et vous aurez votre part au paradis. Est-ce qu'il y a pas de référence théologique?
C'était le légat du pape qui annonce qui effectivement
donc,
est pas un peu excessif
textes, dans vos textes sacrés.
Non,
rien
non,
du tout.
Non,
rien
non.
Du tout.
D'ailleurs, si on lit les évangiles, Jésus, au contraire, il dit pas ça. Donnez et vous serez sauvés. Non.
C'est comme le célibat des prêtres en quelque sorte.
Et d'ailleurs, on ne
peut pas confondre les usages de l'Église. En fait, l'Église, c'est une institution humaine et qui se meut dans l'histoire et qui a un certain nombre de défauts. Et puis voilà, quoi, je crois qu'il faut les assumer.
Mais enfin, il faut les assumer, mais en même temps, il faut les dénoncer, je pense. Parce que c'est important de les dénoncer.
Moi,
parce
qu'il
y a des usages que je trouve qui sont devenus indécents.
Qui perdurent actuellement.
Oh. Non. Par rapport à l'argent, je pense que justement, on a été amené à. Je pense que il y a des papes qui ont fait du nettoyage là, et d'ailleurs qui ont.
Ah oui, actuellement.
Ça n'a pas vraiment plu d'ailleurs.
Oui. Hein. Ce qui est intéressant, ce qu'on dit. Moi, quelquefois, je me suis dit, oh, heureusement qu'on a eu ces mauvais papes de la Renaissance, mauvais dans le sens peut-être de la manière dont ils ont géré la foi des chrétiens. Mais quand on voit les monuments romains, la beauté, les richesses des musées, des fois je me dis, quelle chance d'avoir eu de si mauvais papes qui ont fait des collections artistiques aussi extraordinaires. Bon, voilà.
C'est une chose que je me dis aussi par rapport à l'interdiction biblique de faire des représentations humaines.
Oui.
Et comme chez les musulmans.
Chez les protestants, pareil.
Et que les catholiques romains, donc, eux, n'ont pas hésité à faire des reproductions. Et Michel-Ange, c'est fabuleux.
Oui, voilà, c'est ça. Je me dis, c'est fabuleux. Profitons-en et n'ayons pas de remords.
Mais même
simplement, aujourd'hui.
Même les musiques religieuses, c'est extraordinaire, je trouve.
Mais oui.
Hein, tout ce qui a été produit par des artistes et des artistes payés pour le religieux, je trouve que
c'était un peu à sens unique quand même. Enfin,
oui, effectivement.
Enfin, on pouvait quand même dénuder quelques personnages pour la beauté de la sculpture.
Oui.
En fait, c'est Bach, Jean-Sébastien Bach, qui a instauré la musique. La musique, et avec des paroles en français, si je puis dire, parce que tout était en latin.
Oui, alors effectivement.
Et les gens ne comprenaient pas ce qu'ils chantaient. Ils n'avaient pas forcément le droit de chanter non plus. Donc c'est Jean-Sébastien Bach qui a instauré la musique avec des paroles En allemand.
Oui, c'est ça.
Et après, évidemment, traduit. Mais de façon à ce que les paroissiens comprennent ce qu'ils chantent. Et puis, c'est arrivé juste au moment où il y a eu Gutenberg, donc c'est...
De toute façon, il a fallu la Renaissance, hein, François Ier, qui décide qu'on va faire des documents en français. C'est la même chose, c'est à peu près à la même époque, on a eu des documents en italien. Donc pour chaque culture, on a des documents dans la langue du pays pour que les gens comprennent, donc y compris dans le domaine artistique, dans la poésie. Bon, c'est l'abandon du latin pour le...
Ne serait-ce que la Bible par elle-même, traduite en...
La Bible, il y a des éditions dans plus de 2000 langues.
L'argent.
Pour les catholiques.
L'argent pour les catholiques, actuellement, je trouve qu'il y a aujourd'hui une réflexion amenée et de voir l'argent. Alors j'ai un document qui s'appelle Les cahiers pour croire, qui disent d'où les trois questions que le chrétien doit se poser s'il ne veut pas se payer de mots. L'euro qu'il gagne, quelle utilité personnelle et sociale rémunère-t-il? L'euro qu'il dépense ou qu'il donne, à qui va-t-il manquer? Le résultat qu'il envisage fait-il ou non le poids face à ses coûts monétaires et humains? Je trouve que c'est intéressant ces réflexions, parce que ça nous amène à réfléchir sur les échanges, qu'est-ce que c'est, l'organisation des finances, qu'est-ce que c'est, et à s'interroger sur comment notre pays il organise ça. On doit se positionner par rapport à ça.
Donc une réflexion.
Fin de cette réflexion-là, ils disent « La sécurité économique de quelques-uns se paie par l'insécurité de la masse des plus faibles et seuls ceux qui, naïvement, s'imaginent qu'ils doivent tout à leur seul mérite ignorent ce béaba de la science économique. » C'est vrai. Et c'est pour tous les biens, même hors de l'argent. Cette terre, comment on la transforme. On nous a pas demandé de la laisser telle qu'elle. Dans la Bible, c'est marqué... Qu'est-ce que ça veut dire fructifier? Pour qui et pourquoi? Je trouve ça intéressant comme réflexion. Et ça nous oblige à une espèce de rigueur au niveau de la réflexion qui est... c'est pas l'argent pour moi, oui. J'ai un métier, je gagne ma croûte. C'est aller au-delà. Comment on place notre argent? Qu'est-ce que ça veut dire que de placer son argent?
À quoi ça sert?
Ça, c'est une très belle question, surtout en ce moment. Dans l'actualité, il y a le... jeune footballeur qui est décédé du suite de la chute de l'avion dans la Manche, et Emiliano Sala, qu'on vient à peine de sortir de fond de l'eau, et que le club de foot nantais en train de réclamer l'argent, alors que le monsieur n'est même pas encore enterré, sa famille n'a pas encore fait le deuil.
Réclamer l'argent, quel argent?
Mais le transfert du
footballeur. On l'a acheté.
Ah oui, d'accord.
Le club
donc
nantais réclame...
le transfert n'est pas payé, quoi.
Pas encore. Ils auraient pu au moins attendre un peu de décence, laisser au moins... Voilà. Bon.
Ça veut dire que la personne, face à l'argent, elle devient vite, pas une personne, mais un objet.
L'argent était l'intermédiaire entre la fabrication de la marchandise et sa vente. Et l'argent, maintenant, il est devenu l'acte principal de l'échange. L'actionnaire éjectant les travailleurs de l'échange.
Et là, je crois que c'est une réflexion
C'est plus l'humain qui est visé.
Oui.
C'est finalement faire travailler l'argent pour avoir de l'argent, c'est-à-dire en avoir des intérêts. Et déjà, Aristote l'avait dit. J'ai trouvé une phrase d'Aristote.
Ah oui, alors dites-nous
Il a condamné l'intérêt, récompense d'une non-activité, revenu de l'oppression économique, l'intérêt est de l'argent, et c'est de toutes les acquisitions celle qui est le plus contraire à la nature.
Bon, eh bien, donc, vous voyez que la réflexion, elle est très, très lointaine. Mais c'est quand même, c'est tout à fait intéressant, et ça veut dire qu'en fait, dans nos communautés religieuses, peut-être, ce serait intéressant de susciter cette réflexion pour que l'argent serve effectivement l'homme et non pas simplement les finances.
Absolument.
C'est ça le grand problème, parce que finalement, une action, ça représente une partie d'une entreprise. Mais qu'il y ait des échanges d'actions à la vitesse de la nanoseconde, là, je me dis, non, ça veut dire qu'en fait, il y a 5% de l'argent qui circule qui correspond à des échanges de biens réels, mm-hmm. y compris des actions d'entreprise. Mais pour le reste, c'est faire tourner le fric pour le faire tourner. Et là, il y a quand même quelque chose de grave.
L'argent est devenu la marchandise. L'homme est exclu et c'est devenu
exclu,
la marchandise.
Et il est soumis à l'impératif de la finance. Donc là, il y a quelque chose.
Mais dans ce type d'exemple, un cousin de mon père, il s'occupait d'une voisine. Il était jeune, il était étudiant. Il a eu un diplôme assez brillant. Il a hérité cette dame. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Il a placé l'argent de cette dame dont il a hérité. Il a spéculé. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Ça a été un peu immoral.
Comme quoi, on peut avoir un héritage suffisamment important pour pouvoir s'abstenir de... Pourtant, il y a les impôts d'habitude. Enfin bon, c'est...
Alors, le problème de l'intérêt est très important, puisqu'il est interdit par la Bible de prendre...
Alors, peut-être qu'on peut évoquer cela, oui.
Et en Israël, qui est quand même le pays majoritairement juif, le problème pour avoir un emprunt à la banque qui ne doit pas générer d'intérêt, parce qu'à ce moment-là, le prêteur et l'emprunteur sont condamnés par la Bible. Et donc, ils ont... Voilà, ils ont trouvé un système, une pensée qui dit que en réalité le prêteur devient un partenaire. C'est un partenaire pour aider l'emprunteur. Il va donner en gage une certaine somme d'argent pour que l'emprunteur le fasse fructifier. Alors, on va diviser la somme en deux, une somme qui correspond au prêt lui-même. Alors, cette somme, la moitié de la somme qui correspond au prêt n'aura donc pas d'intérêt versé. Quant à l'autre somme, elle fait partie de l'aide du prêteur pour faire fructifier l'affaire de l'emprunteur. Et évidemment, il peut avoir, si l'emprunteur a des bénéfices dans cette affaire, eh bien, c'est normal de les partager avec le prêteur. Et donc, dans les banques, quand on va faire un emprunt, eh bien, on remplit un contrat qui est passé entre la banque et l'emprunteur, qui stipule que l'argent qui va être fourni par la banque n'est pas du tout un prêt à intérêt, c'est un prêt, mais pour participer
à une activité
économique.
Et si l'activité économique ne fonctionne pas, comment ça se passe ?
Alors, quand l'activité économique ne fonctionne pas, alors l'emprunteur doit donner des preuves, doit être totalement transparent, aller devant un tribunal avec deux témoins pour prouver qu'effectivement son affaire n'a pas marché. Alors, comme c'est un peu gênant, ils ont instauré que l'emprunteur peut
dédommager
à l'avance pour ne pas passer par le tribunal, et ce dédommagement fait partie de ce qu'il doit finalement à la banque. Donc l'un dans l'autre, on arrive à peu près à la même chose, mais au point de vue moral, la banque participe à l'évolution de l'entreprise. Et non pas pour s'en servir simplement pour gagner de l'intérêt. Voilà.
Donc,
parce que tout est dans la morale. Tout est dans la morale.
Et bien sûr, ces bonnes paroles, chers auditeurs, et bien, j'espère que vous avez été intéressés par ces questions qui, finalement, nous amènent à réfléchir sur les usages de cet argent qui, après tout, nous sert bien, mais qui doit servir l'homme. Voilà. Bonne semaine à tous. Au revoir.
Égalité et respect dans le monde entier. Mieux communiquer et nous respecter.
Tous frères et sœurs, s'entraider, mais surtout s'aimer, main dans la main.